nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
...1968-2018, 50 ans de mai 68, y a-t-il de quoi à commémorer? Mai 68, pour ou contre? Qui sont celles et ceux qui ont fait de mai 68? Pourquoi et comment leurs trajectoires individuelles sont-elles entrées dans l'histoire? Et portent-ils encore aujourd'hui les marques? Quel a été l'impact de leur militantisme sur leurs enfants? Qu'en est-il de l'évolution des mœurs et le féminisme en mai 1968? À l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, CUTFM, en partenariat avec Radio France Internationale et Ciné Franco, vous donne rendez-vous à une rétrospective des événements dans leur globalité. Tout au long du mois de mai, replongeons-nous dans l'histoire. Des premières échauffourées à l'évacuation de la Sorbonne et du théâtre de l'Odéon. Mai 68, 50 ans déjà. Faut-il en finir avec la génération 68ards? Mois de mai 2018, mois des 68ards avec des archives sonores, des historiens, des personnalités politiques et des témoins de mai 68.
Pour moi, ça symbolise 1789.
Parce que non, il y en a qui sont à côté de moi qui parlent de la commune.
Si vous souhaitez participer, collaborer à une de nos émissions spéciales tout au long du mois de mai, veuillez signaler votre intérêt à popourri@cut.fm. Popourri Show, 30 ans déjà, un monde à découvrir.
Sous mes bottes.
Et oui, 5 ans après son dernier album solo, elle nous revient avec Paysage intérieur. Et cet artiste, Madame Monsieur, avec son 4e opus, nous attend aujourd'hui dès 12h30. Qui est-elle? En ce 29 avril, nous vous offrons un CD pour vous mettre un peu du soleil dans votre journée de printemps à Toronto. Si vous êtes dans la région de Toronto ou même à l'étranger, vous nous suivez, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. Bien sûr, je parle ici de Joël Roy, cet artiste du nord de l'Ontario qui nous brosse un univers sonore à la fois exotique et familier. À ne pas rater dès 12h30, Joël Roy.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suivent la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Le printemps de Bourges Crédit Mutuel. Les plus grands artistes, les plus belles découvertes. Du 24 au 29 avril, tout le cœur d'une ville bat au rythme de la musique. Le printemps.
R-R-I.
des amis hollandais.
Allons, Freddy.
Yeah.
J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola, comment
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-bout de miel, anti-bout de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Alors, bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bonjour, 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 bonjour à tous nos amis qui nous écoutent en ce moment un peu à travers le monde. Entre autres, nos amis à Brest, à Rennes, en Bretagne, bien sûr, à Melbourne, l'Australie, Sydney, la ville d'Ottawa. Ils sont nombreux de plus en plus à nous écouter. Merci d'être là. À La Fontaine aujourd'hui, une nouvelle recrue peut-être. Et au Québec, centre-ville du Québec, je dis bien Londres, Paris, l'île Maurice, Togo, l'île de la Réunion, Port-au-Prince. Bien le bonjour, l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, assisté de... Non, il n'est pas là, personne n'est là. Production animation, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. 30 ans déjà, 30 ans déjà. Et le menu du jour aujourd'hui, en ce dimanche 29 avril, Toronto sous le choc depuis l'attaque de lundi dernier qui a fauché la vie à 10 piétons sur la rue Yonge, un peu au nord de la ville de Toronto, et blessé 15 autres personnes. Une veillée en présence du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et Julie Payette, gouverneur général du Canada, est prévue ce dimanche à 19h au Mel Lastman Square à North York, Toronto, pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque meurtrière de lundi dernier. Retour sur cet événement marquant. Lancement d'album de Joëlle Roy, qui est-elle, cette artiste franco-ontarienne, très engagée, hein, je pense, dans la francophonie, on en discutera. Elle sera avec nous en direct, madame, monsieur, dès 12h30. Si vous désirez gagner le dernier album de Joëlle Roy, que j'ai ici entre les mains, qui s'intitule Paysage intérieur. Et oui, donc c'est à écouter, absolument. Et soyez des nôtres dès 12h30 aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'elle sera, pour les gens qui nous écoutent dans la région de Sudbury, le 12 mai à la fromagerie Elgin à Sudbury. Pour tout savoir, www.joelleroy.ca. 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Radio France Internationale, la radio mondiale, donnez rendez-vous le 27 avril pour marquer cette occasion. Des émissions consacrées à l'histoire de la traite des hommes et des femmes, tragique, trafic qui perdure encore aujourd'hui malheureusement. De nos invités, le grand footballeur français Liliane Thuram, président de la formation Liliane Thuram, éducation contre le racisme. Les buzz de la semaine et vent de tempête sur la Maison Blanche. Il y avait aussi la valse entre Macron et Trump. Des embrassades, des accolades. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Avec bien sûr nos médias partenaires à ne pas rater. L'expression de la semaine, si cela vous intéresse, madame, monsieur, allez jouer avec nous, je sais que vous aimez bien ça. Cette semaine, un diplomate français a claqué la porte d'une réunion post-Brexit en Europe. Que signifie l'expression « claquer la porte au nez de quelqu'un » Nous attendons votre réponse à popourri@cut.fm. Magazine Priorité Santé, 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 santé oblige. Est-ce que la consommation du miel est bon pour le diabète? Voilà la question que j'aimerais poser à Reflet Salvéo aujourd'hui. Mais où est passé Reflet Salvéo? Mais non, je plaisante. Stéphane, docteur Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé et Radio France Internationale, bien sûr, répondent à la question d'Ibrahim, un auditeur du Mali. Partenaires RFI et Reflet Salvéo. Liberté de la presse en 2017-2018, où en sommes-nous? Reporters sans frontières dévoile son classement de la hashtag Liberté de la presse 2018. Une carte mondiale de plus en plus sombre, madame, monsieur. Pourquoi? À qui la faute? Rencontre avec le fils de Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise, assassinée pas très longtemps. Et donc, il s'appelle Victor Zamit, collaboration spéciale de RFI Paris. Pouvons-nous faire confiance à ces soi-disant universités virtuelles ou écoles à distance? Un jeune recrue au pays du Gondwana est mis sur la sellette par son général. À ne pas rater. Et puis, il vous reste que quelques jours pour gagner des billets gratuits pour le festival de documentaires Hot Docs. D'ailleurs, ici même, à Hot House, au cinéma Hot House, nous avons des projections cet après-midi. Alors, vous avez jusqu'au 6 mai prochain, madame, monsieur. Dévoilement de la liste des co-présentations auxquelles Ciné Franco, notre partenaire de toujours, a été invité. Rencontre avec Serge Giguère, cinéaste du Québec, qui nous présente son plus récent documentaire à l'affiche au Festival Hot Docs, ici même à Toronto, Les Lettres de ma mère, une autobiographie lucide, émouvante, qui rend hommage à la petite histoire dans l'ombre d'une mère à la vitalité hors du commun, symbole de tout un pan de l'histoire rurale et ouvrière du Québec. Et c'est prévu pour le mercredi 2 mai, vendredi 4 mai, samedi 5 mai, ici même à Toronto. À ne pas rater, madame, monsieur, Les Lettres de ma mère de Serge Giguère. J'en parle avec lui un peu plus tard. Et enfin, retour sur le voyage d'Emmanuel Macron à Washington et les temps forts du festival Printemps de Bourges en France qui prend fin ce dimanche. Pour nous joindre ou pour négocier un partenariat tout au long de l'émission, tout au long de l'année, popourri@cut.fm. Popourri Show, 30 ans déjà. Et oui, depuis mardi dernier, des centaines de personnes se rassemblent avec des chandelles pour rendre hommage aux victimes. Et cet terrible accident qui s'est produit à Toronto lundi après-midi. 10 accusations de meurtre sont portées contre Alec Minassian. À notre façon, nous voulons démontrer notre soutien aux familles et proches des victimes qui vivent un dur moment et nous devons dénoncer ce geste inexplicable. Les autorités révèlent l'identité des 10 victimes de l'attaque. 8 d'entre elles sont des femmes. Leur âge varie de 22 à 94 ans. L'une d'elles était une étudiante de nationalité coréenne. Un grand-père jordanien qui rendait visite à la famille de son fils à Toronto a aussi perdu la vie. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est la rapidité de la propagation de cette nouvelle dans les réseaux sociaux et surtout les médias américains qui ont sauté tout de suite sur l'occasion. Ils étaient d'ailleurs les premiers à dévoiler le nom du présumé suspect. Alors que la police de Toronto tatillonnait encore avec des informations à compte-gouttes, serait-ce à cause d'une peur bleue de donner une fausse information comme celle d'une attaque terroriste? Qui est Alec Minassian? On sait qu'il a brièvement fait partie des forces armées canadiennes. Une publication Facebook mise en ligne par Minassian lui-même laisse toutefois croire qu'il s'identifierait comme étant un incel. Qu'est-ce que c'est, incel? Un groupe de célibataires involontairement. Les incels croient, ni plus ni moins, que les femmes refusent de coucher avec eux parce qu'ils sont trop laids ou qu'ils sont rejetés en raison de leurs traits. Dans la publication Facebook en question, Minassian écrit « La rébellion Insel a déjà débuté. Nous allons renverser les Chads et les Stacys. Tous saluent le suprême gentleman Elliot Rodger. Mination fait ainsi référence à Elliot Rodger, qui se disait lui-même Insel et se surnommait lui-même le suprême gentleman. Il est responsable de la tuerie d'Isla Vista en Californie qui s'est déroulée en 2014. De son côté, le gouvernement ontarien offre des ressources additionnelles pour l'enquête et se dit prêt à augmenter son appui à la ville de Toronto si nécessaire, que ce soit aux services policiers ou pour des services en santé mentale. Santé mentale, très important. Mercredi 25 avril, la ville de Toronto a lancé un fonds d'aide accompagné de mots-clés hashtag Toronto Strong Fun. Le fonds a été établi en partenariat avec la Fondation de Toronto, l'organisation GoFundMe et l'organisme d'aide psychologique Victim Services Toronto. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sera ce dimanche soir à la veillée qui se déroulera à North York, à Toronto, en l'honneur des victimes. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, ont aussi confirmé leur présence. L'événement, organisé conjointement par l'administration municipale et les groupes communautaires Faith in the City et le Toronto Area Interfaith Council, aura lieu à la place Mel Lastman, située dans le quartier de North York, dans le nord de Toronto, dès 19h. Nos pensées et toute notre solidarité aux familles endeuillées par cette terrible tragédie.
Pancartes, bougies, fleurs et mots pour les victimes de la tragédie qui a frappé lundi Toronto s'accumulent.
J'ai vu tous les corps au sol, ça fait mal. Toronto est pourtant une des villes les plus sûres.
Je traversais la rue et j'ai vu un couple de personnes âgées qui promenaient leur petite fille. Ils ont été percutés et la petite fille a été éjectée dans les airs.
Le traumatisme est grand. Minute de silence au Parlement canadien en hommage aux 10 morts et à la dizaine de victimes qui se trouvaient lundi sur le chemin d'Alec Minassian. Embarqué à bord d'une fourgonnette de location, l'homme a foncé sur les passants d'un quartier d'affaires au cœur de la ville. Une course macabre sur près de 2 km. Arrêté, il comparaissait quelques heures après la tragédie et a été inculpé de meurtre avec préméditation. Son père, la mine défaite, était présent au tribunal. La police a rapidement écarté la thèse d'un acte terroriste et se concentre évidemment sur la personnalité de ce jeune étudiant de 25 ans, inconnu de ses services jusqu'à présent.
Toutes les pistes seront explorées. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de preuves vidéo et il y a encore beaucoup de témoins à auditionner.
Seules certitudes qui me sont majoritairement déclarées.
Les buzz de nos médias partenaires. Succès du premier gala relève à Toronto. 3 jeunes entrepreneurs, cadres et professionnels récompensés. C'est dans le journal L'Express de Toronto de cette semaine. L'avocat Alexandre Thibault, directeur général pour l'Amérique du Nord et l'entreprise française d'autopartage à Vlog, a remporté le prix Jeune Cadre. Envolée lyrique au Four Seasons Hotel, toujours dans l'Express de Toronto, un des opéras les plus importants d'Amérique du Nord. Nouvelle campagne d'action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Elle met l'accent sur la violence psychologique invisible. Bravo à ces braves femmes et bravo à ces belles affiches qui brisent tous les tabous. À lire dans l'Express de Toronto. De hashtag ONFR, l'Ontario et le Canada dévoilent leur plan pour l'immigration francophone. Très intéressant, en 2017, je vous rappelle que 2,36% des nouveaux résidents permanents étaient francophones, alors que la province s'est donné une cible de 5% en 2012. Pour changer la donne, les deux paliers de gouvernement évoquent la mise en place d'une stratégie internationale de promotion et de recrutement et l'embauche d'immigrants francophones auprès des employeurs de la province de l'Ontario. Réclamé à plusieurs reprises par plusieurs organismes et ténors de la francophonie, dont Carole Jelin, président de la l'Assemblée de la Francophonie qui était à l'émission la semaine dernière, la mention « par » et « pour » est également évoquée dans le document dévoilé cette semaine. L'hôpital d'Ottawa, comme les hôpitaux torontois, Michael Garron et Sunnybrook, notamment, a mis en place depuis avril 2017 un nouveau service en ligne pour les patients francophones. Et oui, cependant, la vie n'est pas toujours rose pour les patients francophones en Ontario qui font face constamment à des obstacles systémiques dans le service hospitalier. Un patient qui veut garder l'anonymat a donc décidé de porter plainte auprès du commissariat au service en français de l'Ontario. Selon la loi sur les services en français de l'Ontario, l'hôpital d'Ottawa doit fournir en français et en anglais les programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. J'en profite pour faire l'éloge des organismes partenaires de notre émission tels que Reflet Salvéo, qui nous aide à promouvoir l'accès des services de qualité et en santé pour les francophones. Reporters sans frontières vient de rendre public son rapport 2017 sur l'exercice du journalisme dans le monde. Journalistes professionnels, non professionnels et collaborateurs de médias, ils sont 65 au total à avoir subi la furie de leurs bourreaux. Autorités politiques, économiques ou groupes mafieux en 2017. La liberté de la presse est en danger, y compris dans les pays soi-disant démocratiques. Selon le rapport, sans le rapport de Reporters sans frontières, l'ambiance délétère et nauséabonde de média bashing qui règne dans les démocraties en est une des causes. Très visible avec la guerre ouverte de M. Trump contre les médias, les États-Unis ont chuté de 2 rangs dans le classement de rapports Reporters sans frontières cette année. Cette pratique tend à se généraliser. Rencontre avec le fils de Daphne Caruana Galizia, journaliste maltaise assassiné, Victor Zamit. Reportage.
Au moment de sa mort, Daphne Caruana Galizia enquêtait sur la corruption et la mafia de son pays. Des enquêtes qui dérangeaient. La blogueuse la plus célèbre de l'île était menacée depuis des années, se souvient son fils Andrew, qui s'est exilé après l'assassinat de sa mère.
Ma mère était menacée par des politiciens, menacée même par des policiers. Elle avait une influence énorme sur le débat politique dans le pays. Elle était vue comme une symbole de la liberté, pas seulement de la presse, mais freedom of speech en anglais. Et donc sa mort a vraiment donné de la peur à Malte.
Cet assassinat a plongé la petite île dans la sidération. Et pourtant, malgré la médiatisation du meurtre et de son instruction judiciaire, les journalistes maltais continuent d'être menacés.
Et les politiciens qui ont été les premiers de harceler ma mère à cause des scandales de corruption qu'elle a publiés, ils sont toujours en train d'harceler les journalistes indépendants qui essayaient de continuer le travail de ma mère.
Résultat, depuis cette affaire, Malte a perdu 18 places au classement 2018 de Reporters sans frontières. Mais le travail d'investigation mené par Daphne Caruana Galizia n'est pas tombé dans l'oubli. 18 médias internationaux ont repris son enquête.
Et oui, merci beaucoup à Radio France Internationale. On va continuer à en parler de ce rapport 2017-2018 Reporters sans frontières. Si vous avez des suggestions, des commentaires, veuillez nous envoyer votre message, vos questions à popourri@cut.fm. Et si on pouvait devenir des experts dans toutes les matières sans jamais fréquenter un collège ou une université? Université francophone. Un nouveau cours virtuel ou à distance fait jaser les francophones en Europe. Plus d'un millier de gens font déjà confiance à cette université virtuelle, madame, monsieur. Une nouvelle formation offerte par une nouvelle école militaire au pays du Gondwana. Le Gondwana. Où est le Gondwana? Nous recevrons son président très prochainement à l'émission, à ne pas rater. Donc, un jeune recrue militaire est dans le collimateur. Il est mis sur la sellette par son général. Accueillons, madame, monsieur, notre ami le général Ledoux.
Allô, j'écoute.
Allô.
Oui.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
C'est bien l'école des...
Oui.
Je voudrais le directeur.
C'est moi-même.
Très bien, bonjour monsieur, c'est le centre d'enseignement militaire à distance Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance.
Oui.
Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie.
À mon insu?
Oui, absolument. C'était le, justement le...
Le but de l'opération?
Voilà.
Ah, bon?
Alors, un jeune soldat,
oui,
un deuxième classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, oui, est venu dans votre école en, oui, tenue de camouflage, tenue léopard, avec, bon, les branches d'arbres dans le dos, enfin, vous connaissez, tenue,
oui,
de,
oui, oui,
de camouflage. Il a pénétré votre établissement,
oui,
avant que de se rendre dans votre bureau.
Oui.
Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau, et il a pu y rentrer.
Exact.
Vous voyez? Donc, alors, vous n'avez rien vu?
J'ai vu un ballon qui a disparu.
Voilà.
C'est vous qui l'avez?
Oui, monsieur.
Ah, c'est une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter.
Bah, écoutez, comme quoi, vous voyez?
Il était dans le coffre à ballon.
Exactement.
À l'intérieur.
Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé.
Ah, oui.
À votre insu. Et
oui,
je crois qu'on peut le féliciter.
Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le...
C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour, oui, que vous le félicitiez.
Oui. Merci.
Je vous en prie, je vais vous reprendre après.
Hein. Oui.
Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô?
Oui, bonjour, c'est soldat? C'est, oui, capitaine, c'est quel grade vous avez?
Deuxième classe de la place, on va pas.
Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que, à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre.
Exact.
Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes d'établissement?
Oui, ben vous savez, moi je suis commando, hein.
Ah, voilà.
Le ballon était l'objectif de notre mission.
Oui.
Et donc il fallait prendre le ballon dans l'école.
Oui.
Le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée.
Ah, ben félicitations.
Ben écoutez, c'est normal. Alors attendez, d'autre part, je vous repasse au général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage. Hein,
oui.
Et il va vous en parler. Hein. Je vous repasse, oui, au général.
Félicitations encore. Hein.
Ben je vous remercie. Oui, restez là, on rappelle. Allô?
Allô, mon général?
Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième, oui, opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein.
Oui.
Vous êtes dans votre bureau?
Je ne suis pas retourné dans mon bureau.
Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter, oui, a également saboté votre siège.
Ah bon, je ne suis,
oui,
encore pas assis.
Vous n'êtes pas assis dessus?
Non, pas encore.
Bon, quand vous allez vous asseoir,
oui,
vous allez tomber à la renverse. Hein.
Ah bon?
Il l'a donc saboté.
Oui.
Et bon, ben vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez des 4 fers en l'air.
Ah bon?
Voilà, donc je vous repasse le soldat. Hein.
Oui.
Le soldat de la place. Le directeur va vous féliciter. Merci, mon général. Allô?
Allô, soldat?
Oui.
Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté.
Oui,
alors,
oui,
félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu.
Bah, écoutez, c'est...
Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité,
oui,
vraiment. J'allais m'asseoir tout à l'heure.
Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi.
Ah bon?
D'un seul coup sec, ouais.
Ah bon, bah, très bien. Félicitations une nouvelle fois.
Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau, enfin de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau,
oui,
il va partir en avant également.
Ah bon, mais qui réparera tout ce matériel?
Ah bah ça je ne sais pas, mais moi j'étais là pour recevoir vos félicitations.
Ah, alors passez-moi le général.
Mon général, le directeur d'établissement. Merci de la place. Allô?
Oui?
Oui, monsieur le directeur.
Bonjour. Alors, bonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé.
Ah ben, nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein.
Oui.
Le génie viendra peut-être ça. Mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations.
Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein.
Oui.
C'est pour ça que je l'ai félicité.
Oui, ben, vous pouvez le féliciter parce qu'en plus, il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non?
Ah ben alors, ça devient plus sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être...
Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Le soldat de la place au rapport, le directeur de l'école va vous transmettre ses félicitations. Merci, mon général. Allô?
Oui.
Oui, mon
soldat.
Je vous remercie de vos félicitations.
Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération.
Ah bon?
Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. important pour nous. Bon, si c'était dans le cadre de la même opération,
oui.
Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Mon t-shirt délavé fait partie de ma peau. Il m'a longtemps traîné. Il connaît mes défauts. Quand je l'ai j'y mets mon nom sur le dos. Tout le monde l'a remarqué. C'est devenu mon drapeau.
Hey, 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 hey! Vous entendez en ce moment, madame, monsieur, le dernier album lancé vendredi 20 avril dernier à Penetanguishene. Paysage intérieur des textes riches et variés de cette chanteuse qui sera des nôtres dès 12h30 à ne pas rater, Joëlle Roy, originaire de Témiscamingue, dans le nord de l'Ontario. L'auteur, compositrice Joëlle Roy s'est depuis quelques années arrêtée en Huronie pour y travailler au cœur de la communauté. En ce dimanche 29 avril, courait la chance de gagner son dernier CD, Paysage intérieur. Aujourd'hui, CUT vous donne rendez-vous dès 12h30. popourri@cut.fm. Soyez des nôtres, c'est un rendez-vous.
Je ne laisserai pas tomber, tu portes bien.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, l'expression de la semaine, madame, monsieur, Potpourri Show vous donne rendez-vous. Allez participer, soyez en grand nombre. Envoyez-nous votre réponse, votre message. Cette semaine, un diplomate français a claqué la porte d'une réunion très très importante post-Brexit en Europe. Que signifie l'expression claquer la porte au nez de quelqu'un? Nous attendons votre réponse à popourri@cut.fm. Magazine Priorité Santé, cette nouvelle chronique qui plonge les auditeurs, les auditrices dans le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients, en partenariat avec RFI et Reflet Salvéo. Je vous invite à suivre les développements chez Reflet Salvéo. La dernière newsletter ou bulletin d'information nous apprend le dépôt de son rapport faisant le bilan de ses activités au Conseil pour l'année 2017-2018. On y constate d'autres sujets tels que l'Ontario donne 4 millions à des projets pour aider les aînés, 4 millions de dollars, bien sûr. Les docteurs francophones ne s'identifient pas comme tels selon un médecin. Pourquoi ? Budget 2018, mieux que rien pour les francophones. Oh, c'est vrai. Des investissements en santé et en éducation dans le budget et la semaine très santé-santé de Kathleen Wynne, la première ministre de l'Ontario, à lire absolument dans le budget. D'ailleurs, si vous désirez recevoir une copie de ce bulletin, vous abonner ou être bénévole chez Reflet Salvéo, allez sur le site www.reflet-salvéo.ca. Et oui, est-ce que le sucre ou le miel est bon pour la santé, surtout si vous êtes atteint du diabète? Aujourd'hui, le magazine Priorité Santé et le docteur Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé, répondent à la question d'Ibrahim du Mali. Magazine Priorité Santé en partenariat avec Radio France Internationale et Reflet Salvéo.
Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète, vous êtes basé à Bamako au Mali et cette semaine vous allez répondre à la question d'Ibrahim qui nous écrit de Bamako et qui souhaite savoir si la consommation abondante de miel peut favoriser la survenue du diabète.
Alors tout d'abord pour commencer un petit rappel à Ibrahim sur la survenue du diabète, surtout le diabète de type 2 qui est lié à l'alimentation et c'est celui-là sur lequel il nous questionne, qui est influencé par de multiples facteurs. Donc c'est pas, ça peut jamais être un aliment qui est causal du diabète. Alors certains facteurs sont dits environnementaux, ça va être l'alimentation, ça va être l'activité physique, ce qu'on appelle le mode de vie et là-dessus il va y avoir aussi des prédispositions génétiques. Alors on retient en général 4 facteurs de risque principaux dans le diabète. Le premier c'est une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, la présence d'un surpoids ou d'une obésité et la présence d'antécédents familiaux. Donc pour revenir à la question d'Ibrahim, pour revenir à sa question, qui visiblement il mange beaucoup de miel, le risque est une trop grande quantité de sucre consommé. C'est pas un risque direct de diabète. Mais ce risque a, j'allais dire, a peu de chances d'arriver au diabète si jamais le reste de l'alimentation est équilibré, s'il fait de l'activité physique. Maintenant, par contre, si jamais en parallèle il est très sédentaire, il mange aussi trop gras, ça va être un ensemble de facteurs qui vont faire qu'effectivement cette consommation de miel en trop peut amener un risque de diabète.
Stéphane Besançon, on nous questionne aussi souvent sur les vertus du miel si l'on est diabétique. Peut-on réellement consommer un aliment sucré lorsqu'on est diabétique?
Alors d'abord, il faut rappeler qu'il existe 2 grands types de sucre. Ça, c'est très important parce qu'il y a souvent une confusion. Donc la première famille, ce sont les sucres simples. Donc c'est le miel, ça va être le sucre blanc qu'on ajoute dans le café. C'est le sucre qui va très rapidement être consommé par l'organisme à très court terme. Maintenant, il y a un deuxième sucre qui sont celui-là qu'on appelle un peu vulgairement les bons sucres. Ça va être les glucides complexes, l'amidon qu'on retrouve dans le fonio, dans le riz, dans les céréales, qui eux vont servir, sont très importants parce qu'ils vont servir de carburant à l'organisme pour tenir une journée et être en bonne forme. Alors, si on est diabétique, ça c'est ce qu'il faut tout le temps rappeler aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'il est quasiment impossible de ne pas manger de sucre parce qu'il y en a un peu partout, qu'il soit simple ou complexe. Donc ce qu'il faut absolument, c'est revenir aux recommandations. Donc il faut rappeler que les recommandations, c'est entre 250 à 500 grammes de glucides complexes, suivant le type de glucides par jour, et seulement 50 grammes de sucre simple. Donc c'est ça qui est très important, c'est de dire pas de combattre complètement les sucres, mais de revenir plutôt à une quantité raisonnable de sucre simple et un bon apport en sucre complexe.
Et alors justement, qu'en est-il de la consommation de sucre simple et donc du miel, pour revenir à la question d'Ibrahim?
Alors, quand on est atteint de diabète, justement, le sucre simple, là, c'est là où il y a un vrai problème, parce que c'est celui qui fait monter très vite la glycémie. Donc, à ce moment-là, il faut quand même faire attention à sa consommation de sucre simple. Alors, la recommandation, c'est 50 grammes de sucre par jour, qui représente approximativement 10 petites cuillères à café ou 3 cuillères à soupe. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est avec le miel contient du glucose, mais aussi du fructose. C'est-à-dire qu'il va avoir un index, une capacité à faire monter le taux de glycémie un peu plus faiblement. Donc, la recommandation serait de dire que si Ibrahim veut consommer des sucres simples, effectivement, plutôt que de mettre 10 carreaux de sucre dans un café, il faut mieux consommer un petit peu de miel. Mais la chose qui est importante quand même à se rappeler quand on est diabétique et qui est vraiment centrale, c'est de se dire que on choisisse le miel ou le sucre blanc, il faut effectivement mieux choisir le miel à quantité raisonnable, les 10 petites cuillères par jour ou les 3 cuillères à café, mais qu'il faut absolument faire très attention quand on est diabétique à la consommation de sucre simple.
Merci Stéphane Besançon. Et comme d'habitude, on retrouve votre chronique à la fois sur le site internet rfi.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux.
Les lettres de ma mère, le nouveau documentaire de Serge Giguère, est en projection au festival Hot Docs à Toronto dès le 2 mai. Une œuvre des productions du Rapide Blanc. Et je vous rappelle, cette projection est présentée en collaboration avec Ciné Franco, ici même à Toronto. Après avoir remporté le Jutra du meilleur film documentaire en 2015 pour Le Mystère Macpherson, Serge Giguère revient avec Les Lettres de ma mère, une autobiographie lucide et émouvante qui rend hommage à la petite histoire dans l'ombre d'une mère, à la vitalité hors du commun, symbole de tout un pan de l'histoire rurale et ouvrière du Québec. Le réalisateur Serge Giguère a mis la main sur une centaine de lettres écrites par sa mère au tournant des années 1950. Alors que ces lettres racontent le quotidien difficile, mais souvent cocasse, d'une famille ouvrière de 16 enfants, Serge Giguère entreprend de bricoler ses propres souvenirs pour en faire surgir autant de patentes hétéroclites comme un écho à sa mère qui coud, tapisse et invente à sa vie au jour le jour. Au fil des confidences à sa fille, ponctuées d'entretiens avec ses frères et sœurs encore vivants, les lettres de ma mère sondent ce qu'il y a de plus intime au cœur de chacun de nous, l'amour maternel vécu, recherché, toujours questionné. Quoi mettre en relief dans une centaine de lettres ? Quel élément utiliser pour évoquer avec émotion ce que nous étions dans les années 50 ? C'est là une préoccupation constante du réalisateur Serge Giguère. En tournant ce film, sélectionné, je vous rappelle, était en compétition nationale, long métrage aux dernières rencontres internationales du documentaire à Montréal. Le film est à l'affiche à Montréal au cinéma Beaubien, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, à la Cinémathèque québécoise et à Québec au cinéma Cartier depuis le mois dernier. Les lettres de ma mère, et je vous rappelle, si cela vous intéresse, je vais vous donner les dates un peu plus tard, mais pour l'instant, nous écoutons un entretien exclusif avec le réalisateur, cinéaste québécois Serge Giguère.
Il n'y a pas tellement longtemps, avec ma sœur et mon frère, on fouillait dans des vieux souvenirs. On est tombé sur des lettres de notre père, de papa, les lettres dans les années 30, qu'il écrivait à sa mère alors qu'il était pensionnaire. Au collège. Et c'était des histoires du quotidien, tout simple. J'ai raté un examen, j'aurais besoin d'un peu de sous, pourrais-tu m'envoyer tel chandail, ce genre de petites choses-là. Serge Giguère, qui est mon invité aujourd'hui, qui est un documentariste cinéaste du Québec, une de nos figures majeures ici, a retrouvé des lettres de sa mère, des années 50. C'est à l'inverse de mon histoire. Monsieur Giguère, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bienvenue. Oui.
Et c'est ça l'essence même de ce film-là que vous présentez, qui sort ces jours-ci, là. Oui. Les lettres de ma mère. Mmh. C'est des mots de cette dame écrites, des mots écrits sur la table de cuisine avec sa belle écriture toute précise à ses enfants un peu partout, notamment, et surtout à son aîné qui était missionnaire.
Oui.
Mm-hmm. Comment est née l'idée de plonger? D'abord, de plonger là-dedans, ça c'est très agréable à faire, mais d'en faire un film.
Ah, l'idée d'en faire un film, ça a mûri tranquillement, parce que moi, je n'étais pas au courant des lettres de ma mère avant, je pense, 2006-2007. C'est venu comme ça. Il y a quelqu'un dans une réunion de famille qui se passait chez mon frère aîné, qui est allé fouiller, puis ils ont ramené les lettres qui étaient dans une boîte de chaussures dans le sous-sol, puis on a sorti les lettres comme ça au hasard.
Il y a tellement de choses dans les vieilles boîtes de chaussures, ouais, des vieilles lettres, des photos, des choses.
Et puis là, on a lu ça un peu, puis on a ri, on a vu ce qu'était notre mère par rapport à tel sujet, tel autre, tout ça. Et puis ça a mûri tranquillement. Fait que moi, vu que je fais des films documentaires, à un moment donné, j'ai dit, ben, il y a peut-être un sujet là. pour faire un film, mais je n'étais pas sûr. Là.
Et vous faites un lien d'ailleurs avec le tout premier film ouais, le fait à maison, ouais. Où on vous voit une avec vous. À un moment donné, vous avez une surimposition de caméra. Là.
Ouais.
Ça, c'était moi quand j'avais les cheveux bruns.
Ouais. Avec une moustache.
Aussi, c'est ça. Et c'était 6 mois avant son décès. Et elle était encore ouais. pleine d'énergie, cette dame.
Oui, oui, mais on savait qu'elle était malade, là, profondément. Et puis, j'ai fait ce film-là un peu comme en urgence. Moi, je travaillais...
À la maison.
À la maison, oui. Mm-hmm. Je travaillais à cette époque-là à l'Office national du film comme pigiste. J'étais assistant caméraman. J'avais déjà, donc, je faisais mes premières armes depuis quelques années là, à la caméra aussi. Fait que j'ai, le premier film que j'ai fait, j'ai emprunté. Pour le jour de l'an, j'ai emprunté les caméras à l'ONF. Il y avait comme une l'aide artisanale qu'on appelait. Là. Et puis là, c'est comme ça, avec cet équipement-là. Puis mon petit frère qui est au son. Lui montre comment marche le magnétophone, tu sais, professionnel, tout ça. Et puis, on s'installe de 7h du matin à 11h du soir, puis on filme simplement tout ce qui se passe dans la journée, au jour de l'an. Pas beaucoup, là.
Les entrées des sœurs, des tantes, les jeunes qui sont
puis
là.
Puis ma mère qui arrête pas, là. Puis puis donc, pas d'entrevue comme telle, mais juste simplement l'espèce de témoignage de ce qu'ils sont. Dans la vie de tous les jours.
Et vous avez récupéré de ces images-là ouais. pour l'être de ma mère.
Oui, puis je dis tout le temps que le film des lettres de ma mère, là, je pense que ce film-là, à maison, fait en 1975, 6 mois avant qu'elle meure, un peu un film fait en urgence, là, si j'avais pas eu ces images-là d'elle vivante, je ne sais pas si j'aurais eu une espèce de moteur assez fort, juste avec des photos, puis des narrations, puis si j'avais pas eu sa voix comme telle, puis son body talk, là, tu sais, comment est-ce qu'elle est, comme l'énergie qu'elle a, je ne sais pas si j'aurais eu autant de plaisir ou d'énergie pour vouloir faire mon dernier film là, qui s'appelle Les lettres de ma mère.
Il y avait quasiment un plaisir coupable à faire ce film-là. Vous êtes payé une traite pas à peu près. Là,
oui, oui. Moi c'était le défi là, par rapport à d'autres films où est-ce que tu as des personnages vivants, c'est de recréer justement une espèce de dramatique où est-ce que tu peux faire rire par moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais de la pixelation avec les photos. J'engage quelqu'un pour m'aider à faire ça. Ensuite de ça, je prends une photo de famille, puis je l'agrandis. Chaque personnage devient réel. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, je monte ça sur des cartons, et puis je les fais évoluer en pixelation dans le film. Et je mets aussi des archives un peu de l'époque. Là. Puis je fais des entrevues avec mes frères et sœurs, puis je les confronte avec les lettres. Donc, c'est une espèce de bricolage comme tel. Je me suis filmé en train de faire mes décors. Tu sais, j'ai pas pris un accessoiriste et je dis, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est moi qui ai fait au complètement. Puis ça donnera le résultat que ça donne parce que je suis pas un professionnel du décor, là. Mais j'aimais ça, dire je fais quelque chose dans mon atelier, un peu comme mon père, puis un peu comme ma mère. Moi, je dis tout le temps, on est fait de...
De l'issue de la ruralité, vous dites.
Oui, c'est ça. La débrouillardise aussi,
ouais.
C'est de faire des choses avec rien. Puis moi, j'ai été habillé par ma mère jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Là, elle nous confectionnait tous nos habits.
Mm-hmm.
C'est une couturière hors pair. Là. Puis comme disait une de mes sœurs, si elle était aujourd'hui vivante encore, elle aurait son iPhone, elle aurait son iPad, puis elle gaulerait
ouais.
pour réunir tout son monde. Là. Parce qu'elle était comme ça.
Serge Guay, vous êtes le 15e de 16 enfants.
Oui, de 16 naissances.
De 16 naissances, oui, pardon. Et votre frère aîné,
ouais.
qui a été le destinataire de la grande partie de ces lettres-là,
parce qu'il voulait faire un prêtre.
Voilà, c'est ça. Lui, vous le confrontez au départ aussi.
Ben, je le confronte, oui, je pas tellement.
Pas dans un sens d'agressivité ou quoi que ce soit, mais juste, ça, cette lettre-là, ça voulait dire quoi à tel moment? Ça t'a fait quoi, ça? Pourquoi de recevoir ça?
Oui, oui. C'est ça. Lui, ça lui donnait une image... Il dit dans le film, ça lui donnait une image de ce que ma mère vivait au quotidien avec toute la trollée d'enfants qu'elle avait. Ça, puis il dit ça m'a été révélé par les lettres que maman me... Lui, là, il devenait le confident.
De votre mère.
Puis, Elle a le premier, puis là, il va faire... On est dans les années 45-50, là. Mm-hmm. La religion catholique, c'est très fort. Fait que le gars, dans ta famille, le plus vieux qui veut devenir un prêtre, là, ça devient comme ton confesseur. Là,
et c'est puis, une famille bénie, bien située.
Ah, voilà, voilà. Il y a beaucoup de ça, là. Fait que je ne vais pas passer à côté de cet élément-là. Puis il se rendra pas jusqu'à la prêtrise. Il lâche un peu avant. Mais toute sa vie, il était très catholique. Là, mmh. Il servait à la messe encore à 87 ans. Fait que, donc, c'est une famille très traditionnelle. Il y a des malheurs qui sont propres à cette époque-là. C'est une chronique d'époque. Tu, ma mère perd deux enfants, mais pas n'importe comment, là, le même soir. Ouais. On est en 1937. Il n'y a pas d'antibiotiques. Et puis, bon. Fait que, puis elle a un malade au travers de ça, puis elle est enceinte d'un autre. Puis, tu sais, elle avouera pas avant une quinzaine d'années après à sa fille, j'aurais aimé mieux qu'à ce moment-là, te perdre, tu sais, je pense à ça, tu sais, mais je veux sauver les deux qui sont là. Mm-hmm. Tu sais, c'est fort, là, tu sais, ouais, c'est comme une espèce de sentiment de culpabilité qu'elle n'était pas capable d'accepter ça, là.
C'est une femme, de l'image que j'en ai vue à regarder ce film, qui était une lumière incroyable dans une période de grande noirceur, de difficultés de vie, aussi des trois emplois de papa pour arriver à vivre.
Oui, puis elle lui aidait beaucoup, mm-hmm. tout ça. Oui, je pense que c'est
les
ça.
Les déménagements, puis bon, ainsi de suite et tout. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui. Ah non, c'est une femme... moi, je fais pas des films avec des, mettons, des vedettes mm-hmm. en général, là. Mais je fais des... Comme disait des... Serge Bouchard, l'anthropologue, qui faisait des émissions sur les remarquables oubliés. Mm-hmm, mm-hmm. Moi, j'adore ça. Mais c'est un peu ça, ma mère. Elle l'a fait, le Québec. Elle a fait 16 enfants. Elle a eu des accouchements. Hey, 16 enfants à 22 ans, là. C'est comme... c'est quelque chose, là.
Ah oui, c'est quelque chose.
Tout à fait. Et puis, voilà. Mais... C'est témoigné d'une époque. C'est un constat. Moi, j'ai pas de la nostalgie de ça. On a été chanceux les deux derniers, là. D'arriver là, avec le rapport parent puis
les écoles, c'est ça, le ministère
avec les bourses puis les prêts pour étudier, et puis j'en ai profité. Mais mes frères et sœurs là, avant, là, qui c'est qu'ils ont fait une septième année, ils ont fait 36 métiers, 36 misères, et puis ils sont débrouillés, mais il y aurait pu être des artistes, là, il y en a là-dedans qui avaient énormément de talent, mais chez nous, qu'est-ce qu'il y avait? Tu penses, il y avait l'encyclopédie Grolier. Puis quand j'ai été 12-13 ans, ma soeur, un petit peu plus vieille, avait un job là, comme secrétaire. Elle a acheté le premier petit tourne-disque, le portatif. C'est ça que j'ai vu chez nous. Tu sais.
Et puis l'Almanach du peuple, peut-être aussi.
Ah, oh, ça, c'est au bien Onésime, puis la terre de chez nous, puis Maison, là.
Mais ça
la TV sur le tard.
Sur
un
le
peu.
Tard, oui. Serge Guay, ce personnage-là qui est votre mère, je dis personnage dans le sens.
Oui, c'est un personnage.
Ouais.
Ah, oui.
Ça transcende le fait d'être votre mère. C'est une mère. Ça pourrait s'appliquer, ces histoires-là. On peut les voir dans certaines communautés en Afrique. On les voit chez des Amérindiens ici. On les voit dans les communautés Amish, et j'en passe.
Bien là, tu touches à quelque chose qui m'a été aussi révélé avec les quelques projections qu'on a eues dernièrement. Là. J'ai eu une première critique dans un journal, une critique de cinéma, mm-hmm. Par un maghrébin. Puis il a dit le terme comme ça, oui, c'est la mère, en nous révélant sa mère, c'est la mère universelle. Dernièrement, je sors d'une autre projection, une amie innu, tu sais, elle a été à Shefferville, mm-hmm. Elle est née là, puis elle vit maintenant à Montréal, elle s'occupe des Autochtones, de l'emploi des Autochtones à Montréal, et puis sa mère est encore à Ouachat, puis elle dit là, faudrait que tu fasses un film sur ma mère, sur ma grand-mère, tout ça. Puis, tu sais, elle était toute... Tu sais, puis je suis blanc. Elle est vraiment, là, tu sais, innu, puis... Mm-hmm. Ben vraiment, elle est innu, c'est tout. Pis, mais je trouvais que c'était un beau témoignage. Tu sais, il y a quelque chose là, qui l'avait touché dans cette espèce de regard-là de la mère.
C'est un film qui se regarde à la vitesse de la plume qui se promène sur la feuille de papier.
Oh, vous êtes bon, là.
Les lettres de ma mère de Serge Giguère. Et il prend l'affiche aujourd'hui, en fait, cette semaine-ci. Et oui. sous peu, un peu partout. Puis allez le voir, c'est de belles tendresses. Serge Giguère, merci beaucoup.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Desmarteaux.
Et oui, merci. Raymond Desmarteaux de Radio-Canada International qui s'entretenait avec le cinéaste québécois Serge Giguère. Et son film qui sera projeté, madame, monsieur, dans le cadre du festival Hot Dogs. Allez, courez vite. Et d'ailleurs, nous avons des billets pour vous, pour n'importe quel documentaire. Je vous rappelle qu'il y a des séances gratuites pour les étudiants et les personnes âgées durant la journée. Mais si vous désirez, vous souhaitez aller voir des documentaires jusqu'au 6 mai prochain. Il y en a 200 documentaires à travers le monde, hein, quand même, qui sont projetés. Alors, les lettres de ma mère, prévues pour le mercredi 2 mai à 18h au TIFF Bell Lightbox. Le vendredi 4 mai, toujours au même cinéma. Et le samedi 5 mai à 15h au Scotiabank Theatre, salle numéro 7. Il y a aussi le film Snowbirds de Joanie Lafrenière. Et tous ces films, je vous rappelle, sont sous-titrés en anglais. Alors, c'est un film qui s'intéresse aux Québécois du bel âge qui choisissent la Floride comme douce alternative à la rudesse de l'hiver du Canada. Avec tendresse, humour, ce film propose une immersion dans leur univers. C'est vraiment un film à voir absolument et c'est prévu pour le vendredi 4 mai au TIFF Bell Lightbox, cela vous intéresse. Et puis, il y a le festival du film juif de Toronto qui revient. Ce festival de films engagés présente des films sur la culture et l'identité juive. 26e édition de ce festival avec des films qui sont tournés un peu partout en Israël, la France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, la Russie, l'Afrique du Sud, Pays-Bas, Hongrie, Australie, Royaume-Uni, Canada et les États-Unis entre autres. Et Ciné Franco vous donne rendez-vous parce qu'ils sont des co-présentateurs, comme on dit. Monsieur et Madame Abdelman, qui est projeté le 13 mai prochain à 17h dans le cadre de Hot Dogs toujours et Hot Dogs Ted Rogers Cinéma plutôt. Et donc, je vous invite à aller ce film. Cela vous intéresse, vous nous envoyez un petit message. Et puis, il y a La promesse de l'aube, qui est un autre film très intéressant. Hein? C'est La promesse de l'aube d'après le roman autobiographique de Roman Gary, qui semble remplir son contrat pour la grande fresque que Éric Barbier nous propose. Un film très narratif, très descriptif, dont la deuxième partie est beaucoup plus intéressante que le début, un peu fastidieux. Et justement, c'est bien là que le bas blesse, par ce côté presque hollywoodien, à vouloir tout englober, tout montrer, tout nous faire comprendre sur le pourquoi, du comment, de cette relation dévastatrice entre une mère castratrice au plus haut degré et un fils soumis et en même temps fasciné par elle. Charlotte Gainsbourg est en particulier exceptionnelle dans ce film. Je vous conseille absolument ce film qui est l'un des meilleurs films français. Et ce film est projeté, je vous rappelle encore une fois, le jeudi 3 mai. Et La promesse de l'aube, Éric Barbier en France. Et c'est au Cinéplex Cinéma Varsity VIP Cinéma 3. Cela vous intéresse. D'autres coups de cœur un peu plus tard, mais tout de suite, nous allons faire un petit détour en France. Et oui, tous les médias du monde étaient rivés sur cette grande visite du président français Emmanuel Macron à la Maison Blanche, des accolades, des embrassades, enfin, fou rire. Alors, on va quand même pas rentrer dans le feu de la trempe de l'histoire, de tout ce qui s'est passé. Vous pouvez vous lire et faire vos déductions vous-même, mais je vais vous quand même proposer un petit montage pour vous démontrer comment les médias français ont compris cette visite de leur président à la Maison Blanche avec quelqu'un qui a plus de 25 ans de rire, de rencontres, de souvenirs. Il est l'imitateur préféré des Français, mais aussi il est auteur, humoriste, chroniqueur, radio, télé, scénariste et bande dessinée, comédien. Je vous présente Laurent Gérard, qui nous livre à sa façon sa compréhension sur le voyage d'Emmanuel et Brigitte Macron aux États-Unis.
Emmanuel et Brigitte Macron sont aux États-Unis depuis hier, vous le savez. Après leur arrivée, ils ont dîné avec Donald Trump et son épouse à Mount Vermont. Quelle est l'ambiance ce matin au réveil? Nous retrouvons le couple Macron en direct de leur hôtel.
Emmanuel, baisse un peu ta musique de sauvage. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes mots fléchés, mes crossing words. Donald, lui au moins, il nous a mis de la harpe.
Mais c'est pas de la musique de sauvage, c'est du Bruce Springsteen. Un chanteur américain, parce que l'Amérique, c'est super.
C'est vrai? Tu as aimé ton dîner chez Donald et Melania hier soir?
Oui, c'était bon, surtout le soufflé au chocolat.
Je t'ai vu. Tu t'es gavé. Et pourtant, je t'ai déjà dit que c'est plein de sucre caché. C'est du poison. J'espère que tu en as bien profité parce que, dès notre retour à Paris, c'est des carottes râpées et des brocolis.
Oh, Brigitte, c'est dégueulasse tes brocolis.
N'en fais pas l'enfant, Emmanuel. Si tu continues à manger comme un Américain, tu vas grossir et ressembler à un barbe à papa comme François Hollande.
Et en tout cas, Brigitte, c'était chouette le bureau à T'as vu tous les téléphones qu'il a, Donald?
Oui, enfin, c'est un peu douteux. Hein. Ils n'ont pas changé la moquette depuis les frasques de M. Clinton et Mme Lewinsky. Il y a encore des taches sur la moquette et les rideaux. Bark! Allons, bon. Qui m'appelle sur mon portable maintenant? Brigitte Macron speaking.
Allô, Brigitte. This is Lynn Renault.
Ah, il y avait longtemps, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Good morning, Lynn. Que me vaut le plaisir de votre appel?
J'ai vu à la télé sur TV5 Monde que vous étiez en voyage aux States avec le petit. Et je me demandais s'il n'y aurait pas une place pour moi dans l'avion présidentiel pour revenir en France. Je suis toujours bloqué à Vegas. Il refuse de me vendre un billet. Il n'accepte pas les bons porteurs en France.
Ah, c'est pas possible, mais elle me prend pour son chauffeur Uber ou quoi? Mais avec plaisir, Lynn.
Oh, c'est formidable. Merci, Brigitte. Vous êtes un amour, comme le chantait Dean Martin. Ah, mon cher Dino, everybody love somebody, somebody.
Sur quelle planète suis-je tombée?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Celli.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM continues to be the sound of your city. Of course, we could not have done it without all of your generous support. The Sound of Your City membership drive is starting up again soon. So stay tuned or visit www.ciut.fm for more details.
CIUT 89.5, Toronto.
Grégory Lesca.
Et dans l'actualité de ce dimanche 29 avril, la dénucléarisation se précise sur la péninsule coréenne. Selon Séoul, le régime nord-coréen est disposé à démanteler son site nucléaire. Et en gage de transparence, il invitera des experts étrangers et des journalistes américains et sud-coréens. Ce démantèlement est prévu le mois prochain, toujours selon la Corée du Sud. Cette annonce intervient deux jours après le sommet historique entre Moon Jae-in, le président sud-coréen, et Kim Jong-un, le dirigeant du Nord, à la frontière entre les deux pays. Les deux hommes ont promis qu'il n'y aurait plus jamais de guerre sur la péninsule. Donald Trump, lui aussi, doit rencontrer Kim Jong-un prochainement, dans 3 ou 4 semaines, a déclaré hier le président américain. Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui en Arménie. Le chef de l'opposition Nicole Pachignan appelle les Arméniens à sortir dans les rues à partir de 10h. Une manière de maintenir la pression sur le pouvoir alors que le chef du gouvernement doit être élu mardi. Un poste que revendique le chef de l'opposition. Hier, il a reçu le soutien du parti Arménie Prospère, tandis que le parti républicain, actuellement au pouvoir, a annoncé qu'il ne présenterait pas de candidat. Coup de colère de Bruno Le Maire hier à Sofia. Le ministre français participait à une réunion des ministres européens des finances en Bulgarie. Un rendez-vous consacré au projet de taxation des GAFA, les géants du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et le ministre français a très peu apprécié les réticences de ses homologues. Francine Quentin.
La Commission européenne propose d'imposer une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires en Europe des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, notoirement sous-imposés. Mais à Sofia, la proposition soutenue par la France n'a pas fait l'unanimité requise, loin de là. On s'attendait à des réticences de la part de Malte, de l'Irlande et du Luxembourg, dont la fiscalité est particulièrement avantageuse aux géants de l'Internet. Mais la Suède, le Danemark, la Finlande ont rejoint leur camp. Pour ces pays, il n'est pas opportun d'imposer une taxe applicable en Europe seulement, ce qui nuirait à sa compétitivité. Pas opportun non plus d'ouvrir un nouveau conflit avec les États-Unis dans cette période d'avant-guerre commerciale. La France n'a pas non plus bénéficié du soutien de l'Allemagne dans sa démarche. Cela a déclenché, selon des témoins de la réunion, une colère froide de la part du ministre français Bruno Le Maire, qui a reproché à ses homologues de beaucoup parler, beaucoup débattre, mais sans prendre de décision.
Francine Quentin. Il n'est pas encore candidat, mais le meeting d'hier avait tout l'air d'un rassemblement électoral. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était hier à Izmir, sur la côte ouest de la Turquie. Devant des milliers de partisans, il a promis la victoire de son parti à la présidentielle et aux législatives anticipées du 24 juin. Et au passage, il en a profité pour qualifier de dictateur le leader du CHP.
RFI, la radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Bienvenue au Bouge, le festival 2018.
On prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui n'ont pas lu de livres qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau. Soleil 40 jours par an, tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi.
Et oui, j'adore, mesdames, messieurs. Nous entendons en ce moment Orelsan, le rappeur français en compagnie de, tenez-vous bien, Stromae. Il revient, hein, il fait un comeback. Il y en a beaucoup de comebacks comme ça, n'est-ce pas, chers mes amis? ABBA! Avez-vous connu le groupe ABBA? Eh bien, il revient. Ils reviennent. Et oui, ils marchent encore, hein, très fort. Moi, je me souviens où j'étais quand j'ai vu pour la première fois le groupe ABBA. Et aussi, il y a un film, hein, sur ABBA. Comédie musicale aussi, sur le groupe ABBA. J'adore. Alors donc, il y a de l'espoir. Ça se passe très bien, ce festival. Ces voix méconnues, hommes et femmes. On parle de parité hommes-femmes cette année. Festival de Bourges. Et je remercie beaucoup nos collaborateurs. Monsieur Serge Beyer, président fondateur du magazine Longueur d'onde, qui est sur place pour nous. Arthur H était sur scène pour ce 42e festival Printemps de Bourges. Et Jacques Higelin, disparu, comme vous le savez, le 6 avril dernier à 77 ans, lui qui avait participé à la toute première édition en 1977, était dans tous les esprits jeudi soir lors d'une superbe concert, d'un super concert de son fils qui a honoré sa mémoire tout en pudeur et en musique. Deux semaines après avoir orchestré le vibrant hommage à Jacques Higelin, que lui ont rendu sa famille et ses amis au cirque d'hiver. Arthur H. a bousculé tout le monde à Bourges jeudi soir avec une séquence d'adieu aux chanteurs émouvant. Et oui, et puis aussi il y a ce duo des femmes. Peut-être on passera un entretien tout à l'heure, mais pour tout de suite, j'aimerais vous rappeler que la nouvelle qui a vraiment tourner en boucle dans les réseaux sociaux cette semaine. Non, ce n'est pas les embrassades et les gestes de tendresse entre Macron et Trump. C'est plutôt Philippe Léglise Costa, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Il est parti en claquant la porte en plein milieu d'une réunion sur les budgets européens post-Brexit. La raison ? La réunion se déroulait entièrement en anglais. Par ce geste, il voulait manifester son désaccord dans le domaine du régime linguistique. Auparavant, au cours d'un discours à l'Académie française à Paris, le président français Emmanuel Macron avait déclaré que les autorités de l'Union européenne utilisaient trop d'anglais dans leurs déclarations officielles. Et selon le président français, la langue française est souvent bousculée par d'autres langues qui visent à l'hégémonie. Elle a d'ailleurs reculé ces dernières décennies parce que nous l'avons parfois abandonnée, notamment au Proche-Orient et en Asie. Le français, donc, est actuellement en 5e position des langues les plus pratiquées dans le monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et, suivant les estimations, l'arabe ou le hindi, selon l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle histoire! Donc, claquer la porte, c'est l'expression de la semaine. Envoyez-nous votre message. L'histoire de l'esclavage pour comprendre le présent. À l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Liliane Thuram, présidente de la Fondation Éducation contre le racisme, était l'invitée d'Emmanuel Bastide dans son émission 7 milliards de voisins sur Radio France Internationale cette semaine. Avez-vous l'impression de bien connaître cette période de la traite des esclaves? Comment transmettre la mémoire de l'esclavage, surtout à nos jeunes dans nos écoles? On n'en parle pas assez. Pourquoi faut-il se souvenir? Quelles sont les initiatives prises par votre pays qui répondent à ce devoir de mémoire? Éléments de réponse en studio avec Liliane Thuram, mais aussi avec d'autres invités. Nous écoutons un extrait de cet entretien.
Je pense qu'effectivement, parler encore une fois de cette histoire-là, de l'esclavage, c'est permettre de comprendre le présent. Et effectivement, je pense que nous avons tort parfois de ne pas comprendre l'esclavage en se positionnant comme en étant avant tout un être humain. C'est-à-dire, pour comprendre l'esclavage, si vous vous positionnez par rapport à votre nationalité
ou votre couleur de peau,
vous ne la saisissez pas. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment se dire, voilà, il s'est passé quelque chose de dramatique. comment ça s'est mis en place, pourquoi ça s'est mis en place. Et on voit que lorsque on explique l'esclavage et on comprend que c'est une minorité de personnes qui sont, qui peuvent mettre à sang l'humanité avant tout pour un système économique, on comprend bien les choses. Et on peut questionner la société d'aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, il y a une minorité de personnes qui sont capables de tout pour arriver à faire de l'argent. Et je pense que là, on arrive à peut-être voir les choses plus facilement, on arrive à questionner les choses plus facilement. Encore une fois, c'est une minorité cupide qui met en place certains systèmes.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter. C'est le bonheur.
Ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant les passions d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps.
50 ans de mai 68, y a-t-il de quoi à commémorer ? Mai 68, pour ou contre ? Qui sont celles et ceux qui ont fait de mai 68 ? Pourquoi et comment leurs trajectoires individuelles sont-elles entrées dans l'histoire ? Emportent-ils encore aujourd'hui les marques ? Quel a été l'impact de leur militantisme sur leurs enfants ? Qu'en est-il de l'évolution des mœurs et le féminisme en mai 68 ? À l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, CUTFM, en partenariat avec Radio France Internationale et Ciné Franco, vous donne rendez-vous à une rétrospective des événements dans leur globalité. Tout au long du mois de mai, replongeons-nous dans l'histoire des premières échauffourées à l'évacuation de la Sorbonne et du théâtre de l'Odéon. Mai 68, 50 ans déjà, faut-il en finir avec la génération 68ard ? Mois de mai 2018, mois des 68ards, avec des archives sonores, des historiens, des personnalités politiques et des témoins de mai 68. Si vous souhaitez participer ou collaborer à nos émissions spéciales tout au long du mois de mai, veuillez nous signaler immédiatement votre intérêt à popourri@cut.fm. Popourri Show, 30 ans déjà, un monde à découvrir.
Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, ni manne, ni mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Mais... Bientôt, à l'écoute.
Terre d'Alliance.
Tierra de Alliance.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France, France Inter.
Inter. France Inter.
Con Alexandre Héro.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Et oui, madame, monsieur, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons accueillir Joël Roy qui lance son dernier album, quatrième hein, déjà. Rendez-vous, ce dernier CD est disponible pour un gagnant ou une gagnante, auditeur, auditrice, partenaire de l'émission. Et oui, petit air de folk, rythme de la Louisiane. C'est un univers musical assez exotique à mon goût dès 12h30 à Paris. Et oui, 42e printemps de Bourges qui révèle cette semaine le pari de la parité homme-femme parmi les artistes invités qui fait figure d'exception. Dans quelques minutes, je vais vous présenter une des figures phares que j'apprécie, que j'aime particulièrement. Mais d'abord, le locataire de la Maison Blanche qui attaque fréquemment les médias malhonnêtes et qualifie de fausses nouvelles, fake news, fake news. Toute information négative à son encontre a ainsi snobé pour la deuxième année consécutive le dîner annuel des journalistes accrédités à la Maison Blanche, qui est traditionnellement l'occasion d'échanges de bons mots entre un humoriste et le président devant le Two Washington et quelques stars d'Hollywood. Pourquoi est-ce que je voudrais être enfermé dans une salle avec un groupe de gauchistes, des fake news qui me détestent, a déclaré le président américain dans un courriel de campagne publié par le Parti républicain. Avril 1968, il y a 50 ans, Pierre-Éliott Trudeau devient chef du Parti libéral du Canada. Il succédera quelques jours plus tard à Lester B. Pearson au poste de Premier ministre. Pierre-Éliott Trudeau le papa de Justin, a fait son entrée en politique fédérale accompagné de Jean Marchand et Gérard Pelletier, les trois colombes, qui souhaitaient ainsi donner une voix plus forte aux francophones à Ottawa. En tant que ministre de la Justice, Pierre-Éliott Trudeau a réussi à s'attaquer à une réforme du code pénal sur des points sensibles tels que l'homosexualité, le port d'armes, l'avortement et les loteries. C'est au moment de ces réformes qu'il sort sa célèbre phrase, vous vous souvenez ? L'État n'a pas sa place dans les chambres à coucher de la nation. Et bien, selon un article de Radio-Canada dans le nord de l'Ontario, plusieurs préposés aux soins ontariens disent remarquer une hausse progressive du nombre de patients agressifs dans l'exercice de leur métier. Toutefois, ils ne seraient pas assez outillés pour faire face à de tels cas de violence. Selon Margaret Dupont, une préposée aux soins depuis près de 20 ans à Sudbury, elle trouve que même si la profession a beaucoup, beaucoup évolué grâce à la modernisation de l'équipement médical, de plus en plus de patients manifestent des comportements agressifs, requièrent les soins des préposés. Et oui, à son avis, la formation dispensée aux futurs préposés dans les institutions d'enseignement postsecondaire est principalement axée sur les soins physiques. Elle ajoute, nous devons souvent chercher d'autres moyens pour comprendre comment gérer les cas de la maladie mentale. J'ai encore du temps, rapidement, l'affaire qui secoue l'Espagne, madame, monsieur, avec des manifestations, vous avez vu ça partout, faut-il se débattre pour faire admettre un viol ? Le procès de la meute indigne l'Espagne. Face aux protestations, le gouvernement a annoncé qu'il se pencherait sur une éventuelle proposition de réforme du code pénal. L'affaire remontait à juillet 2016 pendant des festivités de San Fermín de Pamplona au nord, où cinq Sévillans, âgés de 27 à 29 ans, avaient entraîné une jeune madrilène dans un hall d'immeuble, abusant d'elle collectivement. Il avait laissé là à demi nu après avoir pris le soin de lui enlever son portable, puis il s'était envoyé, en se vantant, une vidéo de leurs actes, devenue la principale pièce à conviction du procès. Il y a une prise de conscience chez les filles plus jeunes de ce que leurs grands-mères ont perdu, explique Soledad Murillo, rappelant que pendant les 40 ans de dictature de Francisco Franco, jusqu'en 1975, il fallait l'autorisation du mari pour travailler, mais aussi des autorisations spéciales pour sortir du pays ou conduire. Incroyable, incroyable. Eh oui, alors nous allons faire un petit détour au Festival de Bourges qui se termine aujourd'hui. Dernière chance si vous êtes dans la région de Bourges. Catherine Ringer, la chanteuse du groupe Rita Mitsuko, vous vous souvenez, était l'une des artistes sur la scène du WW pour l'ouverture du festival mardi dernier. Et elle nous parle des femmes. Et c'est aussi une occasion de découvrir une exposition sur les femmes organisée par la discothèque de Radio France. À découvrir. Reportage, Xavier Nazlé, Grégoire Grigeois et Jean-Marie Borrez.
Ça va mieux. Ouais. C'est joli, c'est harmonieux. Un pas de deux.
Catherine Ringer va beaucoup mieux et ça se voit que lors de son précédent passage en solo à Bourges en 2011, quand le deuil de Fred Chichin semblait encore trop proche. Mardi, elle a dynamisé une soirée réservée aux femmes. Un concept dont elle n'est pas spécialement fan.
Je trouve que ça fait un peu plutôt ghetto, moi, quand on est que des femmes. J'aime bien le mélange, j'aime les hommes, j'aime les femmes. Par contre, le fait de se battre pour qu'on ait des droits égaux, ça, j'ai toujours été, depuis que j'ai 13 ans, enthousiasmée par ça.
La lutte pour les droits des femmes, on la retrouve aussi cette année dans une exposition organisée par le Printemps, à partir de pochettes de disques d'artistes qui ont su faire bouger les lignes. Les Rita Mitsuko sont présents et aussi quelques grandes voix qui ont contribué à faire de Catherine Ringer ce qu'elle est.
Moi, je ne me suis jamais identifiée spécialement à des femmes, je me suis identifiée à des artistes, qu'ils soient femmes ou hommes. J'adorais Bessie Smith, qui est une artiste américaine. J'aimais beaucoup Barbara, j'aimais Janis Joplin, j'aimais... des chanteuses classiques, mais j'aimais aussi des chanteurs, j'aimais Georges Brassens, j'aimais des tas de trucs. C'est du jaune,
là. Toutes ces influences, plus le punk, le funk, le rock, la variété, ont façonné le son des Rita Mitsouko, sans oublier bien sûr les comptines pour enfants. Attention, pour finir ce reportage, voici une petite chanson en exclusivité.
Ne pleure pas, Jeannette, tra la 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 la. Ne pleure pas, Jeannette, nous te marierons, nous te marierons. D'ailleurs, cette chanson-là parle du mariage forcé, finalement. Et là, dans cette chanson, elle ne veut pas se marier avec celui qu'on dit.
CIUT 89.5, Toronto.
Le Crédit Mutuel, les plus grands artistes, les plus belles découvertes. Du 24 au 29 avril, tout le cœur d'une ville bat au rythme de la musique. Le printemps.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
The other breaking story out of Toronto, where we now know that police have been questioning the driver behind the wheel of this white van who basically mowed people down for as long as a mile. This is north of Toronto. This is right around 1:30 their time.
Et oui, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sera ce dimanche soir à la veillée qui se déroulera à North York, à Toronto, en l'honneur des victimes de cet accident tragique de lundi dernier. Je vous rappelle que le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, ont aussi confirmé leur présence. Rendez-vous dès 19h. Au quartier, la place Mel Lastman, située dans le quartier North York, aujourd'hui à Toronto.
He saw people going down one by one. Another saying that he saw multiple bodies there on the ground. Another witness describing it as, quote, pandemonium.
30 ans déjà, Potpourri Show sur
RFI. Toute la diversité du monde.
Elle s'en vient dans un instant.
Plus de ruelles, plus de garnottes sous mes bottes. Plus de poudre d'étoiles perdues. Plus de ruelles, plus de garnottes sous mes bottes. Jamais de détour, je n'ai plus le temps. Plus de longs détours à courir les vents. Sans feu, plus de je ne sais pas, plus de on verra, plus de soleil dans les yeux, plus de fumée sans feu. Le soleil ne se couche pas, il s'en va. Plus jamais de détour. Je n'ai plus le temps. Plus de longs détours à courir les vents. Va.
grande. Avec un bon tout blanc. Si je fais la cour, je la fais belle. Pour m'y asseoir. Jamais de détour, je n'ai plus le temps. Plus de longs détours à courir les vents.
Et oui, 5 ans après son dernier album solo, elle nous présente Paysage intérieur, que j'adore, que j'adore, que j'adore, c'est très très beau. Avec ce quatrième opus, l'artiste originaire du nord de l'Ontario brosse un univers sonore à la fois exotique et familier. Originaire du Témiscamingue dans le nord de l'Ontario, celle qui se décrit désormais comme une nomade sédentaire s'est arrêtée depuis un moment en Huronie. Et aujourd'hui, elle est précisément à La Fontaine, le village de La Fontaine, que je connais très bien. Et elle est là pour y écrire diverses œuvres. Et je vous rappelle qu'elle a tout un univers extraordinaire. Entre autres, dans ce quatrième album, Paysage intérieur, c'est empreint d'un vécu éparpillé autant dans la géographie que dans la forme qui offre à cet artiste qui se dévoile avec candeur, auteur, compositrice. À vous, écrire en pensant au spectacle qui se trame déjà. Alors, quelle est sa source d'inspiration? Et puis, en tant qu'auteur, artiste, francophone, en Ontario, dans des milieux minoritaires, quels sont ses repères? Et a-t-elle des questions identitaires? Surtout quand on est francophone vivant dans le nord de l'Ontario. Dans un instant, madame, monsieur, notre invité du dimanche, Joël Roy. Eh oui, bonjour, bonjour Joël, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien, je suis très heureuse de vous jaser.
Oui, alors je ne sais pas si vous nous suivez depuis le début de l'émission, mais on reçoit beaucoup de réactions, les gens se posent des questions. Comment se fait-elle, monsieur Kader, que nous avons jamais entendu la voix de Joël Roy à votre émission et encore moins ses chansons? C'est incroyable, c'est une richesse incroyable pour l'Ontario français.
Vous me faites un grand plaisir et puis bon, si ça a tardé, c'est chose faite maintenant.
Quand même, c'est votre quatrième album.
Oui, oui, c'est mon quatrième album. Faut dire que je suis un artiste multidisciplinaire qui fait qu'il y a des pauses. Il y a eu une pause pour étudier, il y a eu une pause pour écrire un roman. J'organise le Festival du Loup ici à La Fontaine. Alors, je bosse ma création dans différents médiums.
Oui. Ce qui est fascinant, c'est que vous êtes dans le nord de l'Ontario et vous êtes influencé par le banjo, par cette musique un peu exotique. Et ce qui est rare, parce que souvent, on penserait à des musiques traditionnelles de l'Ontario français. Et or là, alors expliquez-nous un petit peu cette influence dans ce quatrième album.
Ça, c'est pas compliqué. C'est que j'ai passé 7 ans en Louisiane. Et c'était vraiment un coup de foudre au niveau musical, au niveau culturel aussi. Alors, ça déteint dans ce que j'écris parce que j'en écoute beaucoup. J'y vais encore très régulièrement, j'y vais encore quelques fois par année. Alors, c'est très présent dans mon vécu. D'ailleurs, la première chanson, « Identité épaillée », parle de mes trois points cardinaux, si on veut, là, qui sont le Témiscamingue, la Huronie et la Louisiane.
Ah oui, donc le métissage musical, parce que ça, on le sent très bien. Alors, pour les gens qui me demandent, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle est allée faire à la Louisiane, étudier quoi? Je pense que vous avez complété un doctorat en études francophones.
Oui,
en Louisiane.
Et exactement. Et pourquoi Louisiane? Ben, c'est l'endroit qui me fascinait pour commencer. Et deux, c'est que c'est le seul endroit pour faire un de telles études. À part ça, faut aller à Paris et il y a un autre point en quelque part en Europe qui m'échappe. Mais c'est le seul endroit. Alors, c'est un peu comme études françaises. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est comme études françaises, sauf que études françaises, la majorité des cours, ce sont des littératures provenant de la France et le reste d'ici et là. Tandis que études francophones, la majorité des cours sont de l'étude des littératures hors France. Alors, donc, la Louisiane, l'Ontario, le Québec, la Belgique, etc.
Alors, c'est pas tout le monde, tous les francophones de l'Ontario qui cherchent ou rêvent d'avoir un doctorat en études francophones. Est-ce qu'il y avait un but précis pour approfondir vos connaissances dans le domaine de la francophonie? Et est-ce que vous êtes un peu un porte-étendard de la francophonie en Ontario?
Ben, je sais pas. S'il y avait un but précis, j'avoue très candidement que non. J'étais là en voyage pour faire l'étude pour écrire une pièce musicale, alors pour faire des recherches là-bas sur le terrain. J'ai découvert le programme, j'ai découvert que je pouvais y embarquer là sur un programme financier qui faisait que c'était abordable et tout ça. Et d'un cours à un autre, ben j'ai fait la maîtrise, puis après ça, je suis restée pour le doc également. Parce que quand t'es franco-ontarienne, les questions identitaires, c'est de base, hein. Et puis là, ces études-là, d'étudier la francophonie de partout dans le monde, que ce soit l'océan Indien, que ce soit, tu sais, vraiment un peu partout, c'est, pour moi, c'est le cheminement identitaire qui m'intéressait autant que la littérature, parce que pour qu'un peuple arrive à sa littérature, ben il fait nécessairement là un cheminement, et ça m'a fasciné parce que c'est vraiment différent d'un pays à l'autre.
Rappelle, madame, monsieur, que je suis en compagnie de Joël Roy qui nous présente son dernier album, Paysage intérieur. Alors, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, à l'étranger, ils sont nombreux, se posent la question, mais est-ce que vous pouvez nous situer la Huronie dans l'Ontario, le Canada? Alors,
oui.
Cela génère beaucoup de questions. Expliquez à nos auditeurs, surtout internautes, où se trouve la Huronie.
Ben, la question, elle est importante parce qu'il y a bien des gens en Ontario qui connaissent pas l'endroit. Pourtant, c'est un paradis. C'est à peine 2 heures au nord-ouest de Toronto. C'est sur une immense baie qui s'appelle la baie Georgienne, qui aurait pu être le 6e grand lac, tellement c'est grand. C'est une mer d'eau douce. La baie Georgienne donne sur le lac Huron. Donc, on est dans les eaux des grands lacs.
En effet, je connais personnellement cet endroit, c'est formidable. Surtout en été, hein, c'est très très beau pour aller passer des vacances, de belles journées. Et d'ailleurs, c'est entre, si je ne m'abuse, c'est après la ville de Barrie.
Oui, de Barrie, on débarque de l'autoroute et on va un petit peu nord-ouest. Et c'est quoi, une cinquantaine de kilomètres de Barrie.
Oui. Alors, vous dites, selon vous, l'eau de la Huronie génère une source créatrice, ce qui provoque chez vous une source créatrice. Alors, expliquez-nous.
Ben, ça, c'est, je suis pas la seule à le dire. C'est parce qu'il y a énormément de musiciens, il y a énormément de créations dans la région. en musique autant qu'en art visuel, c'est extrêmement prolifique. Alors, on a commencé à dire qu'il y avait sûrement un ingrédient particulier dans l'eau.
Ah oui.
Oui.
mais ça, on devrait avoir des spécialistes pour aller faire une recherche, une étude pour
ben,
savoir.
Je pense, ouais, absolument. Je pense qu'il faudrait que la science s'y mette parce que les résultats sont là.
Oui. Alors, essentiellement, vous êtes une artiste créatrice au fil de vos œuvres. On voit que vous explorez, vous essayez de créer des nouveaux alliages en incorporant le connu, l'inconnu. D'où vous vient cette curiosité, justement?
Ben, pour moi, c'est l'essence même de la création. Si on fait tout simplement reproduire... c'est plus de la création, c'est de la production, tu sais. Et avec ce quatrième album, c'était pas mal extraordinaire parce que, tu sais, on pourrait penser que après quatre albums, ben là, il commence à avoir des patterns. Et il y en a, mais on a fait en sorte que j'ai fait en sorte que qu'on se renouvelle quand j'ai senti que ça sentait des pistes déjà explorées. Je suis allée chercher d'autres collaborateurs pour aller voir où ça pouvait me mener. Et à ce niveau-là, c'était pas mal extraordinaire.
Alors cet album, Madame, Monsieur, je vous rappelle, Paysage intérieur, offre une dizaine de textes riches et variés. Justement, si on parlait un petit peu de cet album, alors vous avez effleuré un petit peu le premier numéro de cet album, Identité épaillée. Alors ici, on voit, il y a le folk qui devient une toile de fond, hein?
Oui, oui, on peut dire ça. Le folk, parce que je compose beaucoup à la guitare acoustique. J'aime la musique riche en instrumentation et le folk permet ça.
Mais deuxième numéro sur cet album, Brise-moi pas le cœur.
Oui, ça c'est du Zydeco. Pur et dur. Mm-hmm. Souvent, on confond avec le Cajun, avec la musique cadienne, ouais. Mais il y a une grande distinction. Le Zydeco, c'est la musique des Noirs, c'est la musique des Noirs, des créoles de couleur, mm-hmm. C'est le mot que je cherchais. Alors, c'est dans le Zydeco, par exemple, il n'y a pas de violon. Dans le Cajun, il y a du violon. Puis le Zydeco a certaines particularités. Puis c'est de la musique qui est facile dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'accords. Alors, bien des gens s'y adonnent en pensant, ben, n'importe qui peut faire du Zydeco, du Cajun, mais il y a vraiment une touche particulière. Et mon claviériste, là-dedans, c'est une des premières, c'est la première pièce qui a été composée. Puis, elle était bien belle, mais je me disais, il manque quelque chose. Finalement, il s'est arrêté à étudier Buckwheat Zydeco, qui est un joueur d'accordéon de la Louisiane. Il l'a étudié en profondeur, et puis là, ça l'a créé ce Zydeco pur et dur-là.
Lui, Lefebvre, il reproduit l'accordéon louisianais comme s'il y en avait grandi, hein?
Exactement.
Alors, troisième titre que j'aime bien aussi, « Chanceux d'être un chat ».
Chanceux d'être un chat, ça c'est du... franchement, ça pourrait être une chanson de musical. Il y a quelque chose de théâtral parce que j'ai un background, mon bac est en théâtre. J'ai écrit un opéra blues il y a plusieurs années. Alors, la théâtralité d'une chanson est très importante pour moi. Alors, celle-là, ben c'est ça, le trombone pour moi, c'est le chat.
Et la première chanson que nous avons jouée juste avant que vous entriez en onde, c'était Mon T-shirt, une légèreté quand même dans cette chanson, hein?
Oui, Mon T-shirt, c'est justement, c'est un, ce qu'on peut dire, un hommage, mais ça traite de la légèreté de l'être, de comment on peut s'identifier à des choses ridicules, et j'ai poussé le concept à son maximum. J'aurais pu prendre des voitures neuves ou des choses comme ça, mais je suis allé pour le summum du ridicule et je suis allé avec un T-shirt.
C'est un vieux rock and roll qui servira de toile de fond dans cette chanson. Mais au numéro 5, J'entre.
Oui, ça, c'est une chanson que j'ai revisitée parce que je la trouvais idéale dans la thématique de l'album Paysage intérieur. Incroyablement, c'est une chanson que j'ai écrite il y a des années, en tout début de carrière. Je l'avais comme oubliée et j'ai eu envie de la revisiter avec un vrai piano, avec du violoncelle. Alors ça, c'est une chanson qui traite d'un voyage intérieur, tout simplement.
Et au numéro 6, ça me fait chier de t'oublier et plus jamais de détour.
Oui, la première, c'est vraiment une musique un peu, c'est vaporeux, c'est un peu hippie, qui a vraiment tous les ingrédients pour verser dans la mélancolie, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est plus debout au quai ou à la gare à regarder les bateaux ou les trains qui viennent et qui vont.
Et au numéro 7, on voit la belle voix d'Éric Dubeau, hein, qui se joint à vous par hasard, qui s'intitule « Dimanche après-midi ».
Ouais, ça c'est un cover, c'est une chanson de Cano qui est vraiment le groupe d'artistes qui était au début du mouvement identitaire franco-ontarien. On remonte dans les années 70. Alors moi, toute jeune, j'ai assisté à leur tout premier spectacle et André Paiement, c'était l'image même de l'authenticité et ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais envie de lui rendre hommage mais mon arrangement est différent. Lui, c'est un folk à la guitare acoustique. Moi, avec l'accordéon et le violon, ça, c'est carrément cadien.
On écoute un extrait d'ailleurs, Dimanche après-midi, Madame Monsieur, de Joël Roy, de son album Paysage intérieur.
Mon t-shirt délavé fait partie de ma peau. Il m'a longtemps traîné, il connaît mes défauts. Quand je l'ai acheté, j'ai mis mon nom sur l'eau. Tout le monde l'a remarqué, c'est devenu mon drapeau. Tu vieillis avec moi, nous changeons de couleur. Je te laisserai pas tomber. Porte bien ma soeur et mon cœur.
Et oui, là nous entendons plutôt mon t-shirt délavé. Oui. Alors on va, que j'aime aussi, mais on va passer à la chanson numéro 10 pour bien démontrer aux gens le rythme de cette chanson. Numéro 10 de l'album Joël Roy, qui est en notre compagnie. Madame, monsieur, d'ailleurs, j'ai une copie ici pour vous, si cela vous intéresse. Vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm.
C'est dimanche après-midi et tout s'arrête dans mon village. Ouh, si tu étais ici, je ferais cesser l'orage. La pluie qui claque sur le pavé, j'ai envie d'aller marcher. Jusqu'aux genoux, partagé comme un enfant. Ouh, je me sens un peu fou, mais il faut bien que je pense le temps. Je me sens un peu plus vieux, un peu plus vieux, un peu plus gris. Oh oui,
c'est dimanche après-midi. J'aimerais bien que tu sois ici.
Ah, c'est très beau, un univers musical à la fois familier et exotique que vous propose, madame, monsieur, notre invité du dimanche, Joël Roy. D'ailleurs, vous serez à, dans le, la tournée de lancement d'album, vous serez à la fromagerie d'Elgin à Sudbury, je pense, le 12 mai prochain.
Oui, et c'est dans le cadre du Salon du Livre du Grand Sudbury. Mmh. Alors oui, lancement et... avec musiciens et on joue tout l'album, on joue l'album intégral.
Très bien. Alors, je remercie tous ceux et celles qui nous ont appelés. On voit que les gens sont très intéressés. Vous pouvez aller sur le site de Joël Roy, www.joelroy.ca, pour avoir plus de détails sur sa vie, ses sorties, son parcours artistique. Vous faites des choses très intéressantes. Est-ce que vous avez un plan d'action pour annoncer cet album, lancer cet album aussi à l'étranger?
À l'étranger, à ce point-ci, non. Mm. Non. Là, on est à faire la promotion au niveau du pays. Là. Et dans un premier temps, c'est de participer à des événements où il y a des acheteurs. Exemple, Contact Ontarois, mais il y en a plein. Il y en a plusieurs. Alors, c'est sûr que j'aimerais beaucoup, beaucoup aller en France avec ça.
Oui, bien sûr. Et en Afrique aussi, à l'île Maurice, en Haïti, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Écoutez, cela nous a fait vraiment plaisir et j'espère que nous aurons la chance de vous avoir à nouveau pour présenter d'autres œuvres artistiques. Je sais que vous ne chantez pas seulement, vous faites aussi autre chose, n'est-ce pas?
Ouais, je travaille à un nouveau roman, alors peut-être qu'on pourra jaser de ça à une prochaine visite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie, alors, allez découvrir cet univers musical de notre invité Joël Roy, madame, monsieur. Cela nous a fait vraiment plaisir et bonne chance pour cet album, Joël Roy. Au revoir.
Merci et bon dimanche.
Et oui, madame, monsieur, voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous rappelle que bientôt à l'émission Autoportrait de Paris avec chat, voilà justement, de Dany Laferrière. Et oui, son premier livre d'académicien. Dany Laferrière, originaire d'Haïti, qui vit à Montréal. Il nous donne un chef-d'œuvre d'école buissonnière et il y a du texte, il y a des dessins. Mais ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas non plus un roman graphique, c'est un roman calligraphié et dessiné à la main. Et bientôt à l'émission. Et puis un autre livre qui fait le buzz dans le monde de la francophonie ces temps-ci, Je ne serais pas arrivé là si, quand les femmes se racontent à une femme, avec ce livre, Je ne serais pas arrivé là si, qu'elle publie aux éditions Grasset, Fasquel, Le Monde. La journaliste Annick Cogent, prix d'Albert Londres, donne la parole aux femmes, de Virginie Despentes à Françoise Héritier, en passant par Azile Erdogan et Patti Smith, un recueil de 27 témoignages touchants et singuliers. Et puis nous allons recevoir aussi des responsables de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, qui va célébrer très prochainement la semaine de patrimoine haïtien, qui se tiendra le 14 au 19 mai prochain. Et le thème retenu cette année, Haïti, 215 ans d'histoire, pionnier de la libération des peuples. Alors, allez sur le site de la Maison d'Haïti du Grand Toronto, sur la page Facebook. Et puis, quoi d'autre encore? Je remercie DJ Devra d'avoir été là, le journal Express de Toronto, et le festival de films Hot Dogs et aussi bien sûr notre invité du dimanche Joël Roy et toute son équipe pour la promotion de cet album. Et je vous laisse avec le groupe d'Haïti Zinglin. Bon dimanche, bonne semaine et bon cinéma.
Come on. Okay. Vous faites faute.
Richie, faute grammaticale ou bien faute dans la vie.
Vous faites faute.
What's yours is yours, what's mine is yours.
Et me chanter.
On est respect. La société fait j'aime clair. Pas besoin de paix. C'est n'est pas changer comme les mauvaises nouvelles tombées. Que ça qui pourrait vous crier. Ne pas blesser, l'écraser. Nous obligés de composer.
Les exemples pour soulager.
C'est de passer à toi, sans ça ne pas craser.
Aïe, on se marie, nous pas la guerre. Tout ça qui fait, c'est notre vérité.